Chapitre 23, versets 1 à 20, le livre de l'Alliance et la sanctification du peuple. L'importance de la maison de Dieu sur la terre, lieu où l'Éternel fait habiter son nom, et le livre de l'Alliance, voilà, comme nous l'avons vu, ce qui caractérise le renouvellement spirituel sous Josias. Nous n'hésitons pas à le répéter, dans les temps où nous vivons, ces deux choses caractériseront toujours un vrai réveil. L'intérêt pour l'assemblée du Dieu vivant, et non pour les misérables imitations par lesquelles la chrétienté déchue l'a remplacée, le zèle pour l'autorité inspirée des Écritures, c'est à quoi toute âme fidèle qui cherche la gloire du Seigneur s'attachera aujourd'hui coûte que coûte. Le roi fait assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem et monte à la maison de l'Éternel, ayant avec lui tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, et les sacrificateurs, et les prophètes, et tout le peuple, depuis le petit jusqu'au grand. Il fait lire devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qui avait été trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 2. Ce livre de l'Alliance comprend non seulement l'Alliance du Sinaï, mais celle qui fut faite dans les plaines de Moab, c'est-à-dire toutes les paroles du Deutéronome. Elle s'appliquait exactement à l'état du peuple tel qu'il était alors, et Dieu l'avait décrit d'avance dans ce livre. Le Deutéronome parlait avant tout d'obéir et faisait dépendre de l'obéissance à la parole la bénédiction ou le malheur du peuple que Dieu avait racheté d'Égypte. Ici, cette alliance est renouvelée. Le roi se tint debout sur l'estrade et fit cette alliance devant l'Éternel, de marcher après l'Éternel et de garder ses commandements et ses témoignages et ses statuts de tout son cœur et de toute son âme pour accomplir les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'Alliance. Verset 3. Dans ces réveils de la faim, un puissant effet se produit sur tous, quand même la réalité ne se trouve que dans le cœur du résidu. Le livre de Jérémie qui prophétisait sous Josias nous montre que, de fait, l'état moral du peuple n'était nullement changé. Ils avaient consenti facilement à l'abolition de l'idolâtrie par la fidélité du roi, mais leur cœur restait aussi éloigné de Dieu qu'auparavant. Le prophète dit, « Et l'Éternel me dit, dans les jours du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël, l'infidèle? Elle s'en est allée sur toute haute montagne et sous tout arbre vert, et elle s'y est prostituée. Et j'ai dit, après qu'elle a fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, Juda la perfide, l'a vue. Et j'ai vu que, quand pour toutes les choses dans lesquelles Israël l'infidèle avait commis adultère, je l'ai renvoyé et lui ai donné sa lettre de divorce, toutefois sa sœur, Juda la perfide, n'en a pas eu de crainte, mais elle s'en est allée et s'est prostituée elle aussi. Et il est arrivé que, par la légèreté de sa prostitution, elle a souillé le pays et a commis adultère avec la pierre et le bois. Et même avec tout cela, sa sœur, Juda la perfide, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais avec mensonge, dit l'Éternel. Jérémie 3, versets 6 à 10. Voir aussi, chapitre 5, versets 27 à 29, chapitre 6, versets 9 à 15 et 29, chapitre 8, versets 8 à 13. En dépit de cela, une contrainte morale s'exerce, par le moyen de ceux qui sont fidèles, sur les âmes, même de fait éloignées de Dieu. Nous voyons en 2 Chroniques 34, verset 33, que Josias obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant tous ces jours, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leur père. C'est ainsi que tout le peuple entre ici dans l'Alliance. Amon avait établi tout ce qu'avait aboli Manassé lors de sa repentance. Josias, dans son zèle pour Dieu, et pour Dieu seul, bien différent du zèle de Jéhu, purifie complètement Jérusalem, Juda et Israël, aussi loin que son bras peut s'étendre. Il brûle dans les champs du Cédron tous les objets accumulés dans le temple pour le culte de Baal, d'Astarté et des astres, et porte leur poussière à Bethel, lieu initial de l'idolâtrie de Jéroboam. Il supprime les Camarim, sacrificateurs établis par les rois de Juda pour brûler l'encens aux faux dieux. Verset 5. Voir Sophonie 1, verset 4. Et j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, et je retrancherai de ce lieu le reste de Baal et le nom des Camarim avec les sacrificateurs. il détruit entièrement la statue de la Vénus impudique établie dans la maison de l'Éternel et rend la souillure de ses cendres au sépulcre de ceux qui l'avaient adorée. Il ôte la prostitution qui s'étalait à Jérusalem sous couvert du culte d'Astarté. Il rassemble les sacrificateurs qui avaient continué, sous Manassé repentant, les sacrifices à l'Éternel sur les hauts lieux. De Chronique 33, verset 17. Il ne les assimile pas aux Camarim, mais ne leur permet pas de monter vers l'autel de l'Éternel à Jérusalem. Toute communion avec une religion qui, même en étant séparée de l'idolâtrie, a osé méconnaître le seul centre de rassemblement du peuple, est résolument rompue. Nous trouvons en cela une instruction pour les jours où nous vivons. L'acte de Josias nous montre qu'un réveil ne peut s'associer avec un culte qui n'est pas rendu autour de la table du Seigneur, seul centre de rassemblement des siens. Toutefois, Josias reconnaît à ses sacrificateurs le droit de manger des pains sans levain au milieu de leurs frères. Verset 9. La sainteté individuelle de ceux que le Seigneur a consacrés est pleinement reconnue, mais momentanément, si ce n'est pas pour toujours, leur fonction dans le culte d'Israël n'est pas tolérée. Josias abolit encore les chevaux du soleil, démolit et brûle les autels qui ont osé remplacer le seul autel de Dieu. Il s'attaque même, dans son zèle pour l'Éternel, aux autels bâtis par Salomon. Verset 13. Il va plus loin. Son intérêt s'étend à tout le peuple de Dieu. Il se rend à Bethel, condamne tout ce mal à son origine et accomplit ainsi la prophétie prononcée jadis devant Jéroboam contre l'autel où le roi avait offert des sacrifices. Verset 15 et 16, voire 1 roi 13, verset 2. Cependant, il épargne le sépulcre de l'homme de Dieu qui avait prononcé ces choses. Quelle qu'eût été l'infidélité de cet homme, il reconnaît ce qu'il avait fait pour Dieu, épargnant aussi les eaux du prophète de Samarie, cause de sa chute, mais qui s'était humilié de son erreur. C'est ainsi que tout cœur vraiment chrétien reconnaît ce que les hommes de Dieu ont fait dans les temps passés pour son service et respecte leur œuvre, même entachée de manquements, qui lui ont fait perdre sa puissance et en ont gâté les résultats. Versets 17 et 18. Enfin, le roi parcourt les villes d'Israël, abolissant les temples des hauts lieux, sans pitié pour les sacrificateurs idolâtres qu'il extermine, quoique, le peuple ayant été transporté par l'Assyrie, leur influence fût perdue en apparence. Il agit en vue d'une restauration future, et son cœur, enflammé pour le service de l'Éternel, s'y attache, car les prophètes, même pendant son règne, annonçaient une restauration sous le sceptre du roi de justice et de paix. Versets 21 à 27. La Pâque. Et le roi commanda à tout le peuple, disant : Célébrez la Pâque à l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Car aucune Pâque n'avait été célébrée comme cette Pâque depuis les jours des juges qui ont jugé Israël, et durant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Mais la 18e année du roi Josias, cette Pâque fut célébrée à l'Éternel dans Jérusalem. Versets 21 à 23. La célébration de la Pâque nous est donnée ici en quelques mots, tandis que les chroniques la décrivent tout au long. De Chroniques 35, versets 1 à 19. Mais ce fait a trop d'importance dans l'histoire du réveil pour n'y pas arrêter un moment l'attention de nos lecteurs. Nous venons de parler des deux grands principes qui caractérisent le réveil de la fin, la rupture avec l'idolâtrie du monde ou ses traditions religieuses, le retour aux Saintes Écritures. À la suite de ces deux faits, et comme leurs conséquences, nous avons la célébration de la Pâque. La Pâque, comme institution, avait d'abord été célébrée en Égypte. Le peuple d'Israël avait été racheté du pays de servitude par le sang de l'agneau pascal. Par lui, le jugement de Dieu qui atteignait l'Égypte s'était détourné d'Israël. Le peuple, placé sous l'aspersion du sang, mangeait la Pâque. C'était une figure de l'appropriation qui nous est faite, une fois pour toutes, par la foi, du sacrifice de Christ, et ce symbole correspond à ce qui nous est dit du chrétien en Jean 6, verset 53. En vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Le mémorial de cette délivrance venait ensuite. Il se répétait chaque année le 14e jour du premier mois. Exode 12, verset 14, 26 à 27 et 45. Ce mémorial était célébré par tout le peuple. En des circonstances normales, personne en Israël ne pouvait s'en abstenir sous peine d'être retranché de ses peuples. Comme condition première, il fallait être circoncis. Exode 12, verset 48. Ce signe était le type de la mise à part pour Dieu par le jugement du péché et le retranchement de la chair. Aussi, lors de l'entrée dans le pays de Canaan, après le passage du Jourdain, tous ceux qui appartenaient à la génération dont les pères étaient tombés dans le désert et qui n'avaient pas été circoncis le furent à Gilgal. L'opprobre d'Égypte fut ainsi roulé de dessus eux, et ils purent célébrer la Pâque dans les plaines de Jéricho. Josué 5, versets 6 à 12. Par le fait qu'il était donné à un peuple racheté et circoncis, ce mémorial devenait le symbole de l'unité du peuple de Dieu. La Pâque était donc à la fois le souvenir de la rédemption et la proclamation de l'unité du peuple. L'Esprit de Dieu nous en montre la célébration comme une institution fondamentale, d'abord pendant la traversée du désert, Nombre 9, versets 1 à 14, puis à l'entrée en Canaan, Josué 5, verset 10. Depuis ce moment, la parole ne la mentionne plus jusqu'au jour d'Ézéchias, non qu'elle ne fût pas observée sous les juges, sous David, Salomon et les rois, mais elle n'était pas l'objet spécial présenté par le Saint-Esprit, tandis que, nous voyons sous le règne de Salomon, les fêtes du septième mois, surtout celles des tabernacles, occupaient une place prépondérante. Lors du réveil d'Ézéchias, la Pâque ne fut pas célébrée le 14e jour du premier mois, mais au deuxième mois, le même jour du mois. De Chronique 30, verset 15, date autorisée par la parole pour ceux qui étaient impurs ou en voyage lors de la célébration de cette fête. Nombre 9, verset 11. Les sacrificateurs se trouvaient dans le premier cas. Ayant manqué de zèle pour se sanctifier, ils étaient impurs, et Ézéchias agit en conséquence. La Pâque de Josias fut célébrée au jour voulu, le premier mois. De Chronique 35, verset 1. Le besoin de se sanctifier pour l'Éternel était beaucoup plus général alors que sous Ézéchias, car la parole de Dieu était mieux comprise et le désir de lui obéir plus réel. Au temps d'Esdras, la Pâque fut aussi célébrée par les fils de la transportation, au jour consacré, car les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés comme un seul homme. Esdras 6, versets 19 et 20. Donc, à mesure que nous avançons dans l'histoire de la ruine du peuple de Dieu, la Pâque et l'état d'âme qui s'y rapporte acquièrent plus d'importance pour les fidèles, et, chose tout à fait remarquable, le signe de l'unité du peuple devient d'autant plus important que ce peuple est plus dispersé par la ruine. Est-il besoin d'ajouter que ces vérités répondent aux temps actuels? La scène du Seigneur qui remplaça, comme mémorial, la Pâque juive, la nuit où Jésus fut livré, est servie, et la table du Seigneur dressée pour le peuple racheté et pour lui seul. La mort du Seigneur y est proclamée jusqu'à son retour. Cette table est, en même temps, le centre de ralliement pour le peuple de Dieu, la proclamation de l'unité du corps de Christ, 1 Corinthiens 10, verset 17, même dans un temps où tout, en apparence, contredit cette vérité, ou même, comme au temps d'Ézéchias, on se rit et se raille de ceux qui la proclament. 2 Chroniques 30, verset 10. L'histoire de la Pâque ne se termine pas ici, et de fait ne sera jamais terminée. Un peuple de bonne volonté la célébrera encore sur la terre pendant le royaume millénaire du Christ, Ézéchiel 45, verset 21. Elle sera célébrée en même temps dans le royaume céleste où les saints glorifiés seront rassemblés autour de l'agneau immolé, Apocalypse 5. Ainsi, du moment qu'une rédemption est effectuée, le mémorial de ce qu'il a acquise pour le peuple de Dieu persiste à travers tout, et persistera jusque dans les temps éternels. Le souvenir de la mort de Christ est toujours nécessaire, car elle est le seul fondement de toute bénédiction. Revenons maintenant à la Pâque de Josias. Le récit de notre livre, bien que très bref, est caractérisé par un mot important, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance, verset 21. Sans doute, comme nous le voyons dans les chroniques, le peuple, sous Ézéchias, était aussi venu la célébrer selon la parole de l'Éternel et la loi de Moïse, homme de Dieu, de Chroniques 30, versets 12 et 16. Mais sous Josias, la parole écrite, merveilleusement conservée et retrouvée dans le temple, prend une importance beaucoup plus grande encore. Sans la parole, rien de ce qui touche à ce mémorial ne devait avoir lieu. C'était suivant l'écrit de David et suivant l'écrit de Salomon qu'on devait s'y préparer. 2 Chroniques 35, verset 4. Conformément à la parole de l'Éternel par Moïse, qu'on devait la préparer. Verset 6. Selon qu'il est écrit dans le livre de Moïse qu'on devait présenter le sacrifice à l'Éternel. Verset 12. Selon l'ordonnance qu'on devait le faire cuire au feu. Verset 13. Selon le commandement de David et d'Azaph et d'Éman et de Jédutun, le voyant du roi, que chacun occupait sa place pour observer l'ordre selon Dieu dans les chants et la louange. Verset 15. Et tout se faisait selon le commandement du roi Josias. Verset 16. C'est-à-dire que l'instrument de ce réveil avait de l'intelligence pour ne communiquer et n'ordonner au peuple que ce qui était en rapport avec les Écritures. Prenons ces choses à cœur. Josias, averti par l'Éternel, savait parfaitement qu'en faisant cela, il n'arrêtait pas le jugement qui était en cours. Il savait aussi qu'il serait recueilli devant le mal et que ses yeux ne le verraient pas. Deux Rois 22, verset 20. Mais il n'avait qu'une pensée. Ressentant avec une humiliation profonde le déshonneur infligé à l'Éternel et à son culte, il était pressé de l'honorer au milieu de la ruine d'Israël, dans le lieu même où il avait été déshonoré. Il protestait par toute sa conduite contre les infamies qui s'étaient commises en Juda sous le couvert de la religion. Il s'humiliait de cette apostasie comme en ayant la responsabilité aussi bien que les autres, mais toute son activité se portait, sans en rien distraire, sur le service de l'Éternel et la purification pour lui d'un peuple particulier, quelque abaissé ou dispersé qu'il fût. L'ère de Josias ne fut pas marquée, comme celle d'Ézéchias, par des attaques spéciales de l'ennemi, par des épreuves provenant du dedans ou du dehors. Ce fut un temps relativement paisible, où l'indifférence avait certainement plus de part que la haine. Mais tandis que le monde se reposait et laissait faire, Josias utilisait cette accalmie pour déployer la plus grande activité au service de son maître. Notant, nous l'avons déjà dit, ressemble à celui-là, et les fidèles y ont la même position et les mêmes devoirs. Puissions-nous utiliser ces jours de la fin, avec leur calme relatif, pour rendre témoignage de ces trois choses, la séparation du monde religieux et irreligieux qui nous entoure, l'attachement aux Écritures, le rassemblement des enfants de Dieu autour de la table du Seigneur jusqu'à ce qu'ils viennent. Notre chapitre ajoute que Josias extermina toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem afin d'effectuer les paroles de la loi écrites dans le livre que Hilkija, le sacrificateur, avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 24. Ainsi, jusqu'au bout de sa carrière, Josias mit en pratique les préceptes qu'il avait tirés des Écritures. Il n'y eut point de roi semblable à lui, ni avant ni après lui, et cela ne tint pas à son mérite personnel, ni à sa justice, mais au fait que la parole de Dieu, mêlée avec la foi dans son cœur, était devenue partie intégrante de lui-même. Versets 28 à 30. Le pharaon Nécho. La fin de Josias ne correspond pas aux bénédictions initiales de son règne. Nous avons vu que, par une grâce spéciale, Dieu lui avait accordé le repos extérieur, en sorte que son témoignage pût se développer en paix. Ce fut Josias lui-même qui se laissa entraîner à chercher la guerre. Le moment était arrivé où, suivant les prophéties, la puissance de l'Assyrien qui avait pesé si lourdement sur tous les peuples allait être brisée pour faire place à l'empire universel de Babylone. Nécho monte avec l'armée égyptienne contre le roi d'Assyrie. Josias prend parti pour l'Assyrien contre le pharaon, chose que Dieu ne lui avait nullement ordonnée. Qu'avait-il à faire à supporter l'édifice chancelant de cette puissance, cruel ennemi d'Israël? Il savait par les prophètes que la ruine finale de l'Assyrien était proche. Avait-il mission de la part de Dieu de corriger les événements du monde ou de leur prêter son appui? Rien dans l'état du monde n'est améliorable aux yeux de Dieu, et nous savons qu'il est déjà jugé. Josias avait été mis à part de tout le train du monde pour servir l'Éternel, lui et son peuple, et nous le voyons se mêlant de politique. Le résultat ne se fait pas attendre. Le monde nous punit de notre intervention dans ses affaires. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ?» lui dit le pharaon, qui a conscience d'être un instrument de Dieu. « Dieu est avec moi. Dieu m'a dit de me hâter. » Et ces paroles de Nécho venaient de la bouche de Dieu. De Chroniques 35, versets 20 à 22. Du moment qu'il entre dans cette voie, Josias perd le discernement de la pensée de l'Éternel et ne sait plus reconnaître les paroles de sa bouche. Il en est toujours ainsi. L'intelligence spirituelle et une vraie connaissance de la parole sont liées à la vraie séparation de tout ce qui constitue le monde, y compris sa politique. Et du reste, un enfant de Dieu serait toujours un fort mauvais diplomate parce qu'il ne peut éviter de se laisser gouverner par des principes moraux dont le monde n'a cure. Mais, d'autre part, qui peut connaître comme le chrétien l'avenir du monde? Un simple enfant dans la foi, attaché à la parole de Dieu, en remontrera, par sa connaissance de l'avenir, au plus grand politique, car il connaît tous les détails des choses futures selon que Dieu les lui a révélées. Josias doit en pâtir, car cette intervention était une grave infidélité pour un homme favorisé comme lui des bénédictions et de la communion de son Dieu. Il est tué par le pharaon à Megiddo et enterré dans son sépulcre. Jérémie fait des lamentations sur la fin de ce pieux serviteur de l'Éternel. De Chroniques 35, verset 25. Versets 31 à 35. Joacaz. Toute la faveur de Dieu sous le règne de Josias, la bénédiction et la joie dont l'Éternel a rempli le cœur du peuple, n'ont aucun résultat pour les successeurs de ce roi. Joacaz, élu et proclamé par le peuple à la place de son père, fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon tout ce que ses pères avaient fait. Verset 32. Il se relie non pas à Josias, mais à ses pères incrédules et idolâtres, et ne compte pas dans la lignée de la foi. Il n'est pas possible d'avoir Josias ou Abraham pour père sans produire des fruits convenables à la repentance. Ici, la cognée était mise à la racine de l'arbre, et la royauté allait traverser ses dernières convulsions pour être enfin retranchée de Juda. Les mères issues du peuple de Dieu sont désormais sans influence, soit qu'il n'y ait plus d'oreilles pour les écouter, soit qu'elles participent elles-mêmes à la ruine. Amutal, femme de Josias et mère de Joacaz, était fille de Jérémie de Libna et apparemment de race sacerdotale. Josué 21, verset 13. Son fils ne régna que 3 mois et trouva cependant le temps de faire le mal et de contredire, par sa conduite envers Dieu, ce que Josias avait établi. Le pharaon Nécho se venge sur lui de l'opposition de Josias, qui avait follement soutenu l'Assyrien en voulant empêcher la marche de l'armée égyptienne. Lié de chaînes, Joacaz est emmené en Égypte et y meurt. Le pharaon ne tient aucun compte de cette royauté établie par le peuple. Jérémie prophétise sur lui. « Ne pleurez pas celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, ni ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi dit l'Éternel quant à Chalun, Joacaz, fils de Josias, roi de Juda, qui régna à la place de Josias, son père, et qui s'en est allé de ce lieu, il n'y reviendra plus, car il mourra dans le lieu où on l'a transporté et ne verra plus ce pays. » Jérémie 22, versets 10 à 12. Nécho prend Eliakim, fils de Josias, et l'établit à la place de Josias son père, changeant son nom en Jéhoiakim. Ce dernier devient serviteur et tributaire du roi d'Égypte et donne au pharaon l'or et l'argent qu'il a recueillis des taxes. Verset 35.